Il est parfois difficile de concevoir la signature d'un accord où, au lieu de payer une simple amende si on rompt le contrat, la clause stipule qu'on doit être physiquement découpé en deux.
Ouais, c'est assez radical.
C'est genre le scénario d'un film d'horreur très sombre, quoi.
Pourtant, c'est en fait le fondement même de l'une des promesses les plus influentes de toute l'histoire humaine.
Tout à fait. D'habitude, quand on pense à un contrat, on s'attend à un truc hyper formel, très clinique, des avocats, des signatures en bas de page, et puis voilà, c'est réglé.
C'est ça, du papier, de l'encre.
Mais là, quand on se plonge dans ces textes anciens, tout ce vernis de la modernité, il disparaît instantanément. On se retrouve face à un paysage d'alliances qui est hyper viscéral, souvent déroutant, et franchement d'une profondeur psychologique vertigineuse.
Et c'est exactement ce terrain-là qu'on va arpenter aujourd'hui avec notre source.
Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent, notre discussion s'appuie sur une source vraiment riche. C'est la transcription de la conférence numéro 23 du docteur Robert Vanoy, une conférence consacrée à l'histoire de l'Ancien Testament.
Un texte incontournable.
La mission de cette exploration, c'est de décrypter comment l'Alliance Abrahamique a littéralement façonné toute la structure du récit biblique. Il y a matière à réflexion, parce qu'on y trouve des rituels sanglants, mais aussi des dilemmes... insoutenable sur le libre arbitre et la volonté divine.
Ouais, des questions existentielles fondamentales, en fait.
Bon, décortiquons tout cela. Face à un texte aussi dense, quel est le meilleur point de départ pour vraiment saisir son essence ?
Le meilleur point de départ, c'est déjà de redéfinir ce qu'on est en train d'observer. Il faut bien comprendre dès le début que c'est pas juste une curiosité archéologique ou un vieux manuel d'histoire poussiéreux, quoi.
D'accord, c'est plus vivant que ça.
C'est beaucoup plus vivant. La conférence du docteur Vanoy met en lumière un texte qui aborde les rouages même de la condition humaine. La grâce, la responsabilité et surtout l'existence d'un fil conducteur spirituel qui relie des époques qui n'ont rien à voir entre elles.
Un choix. Un fil qui traverse le temps.
Exactement. À travers cette analyse, on découvre une alliance qui traverse carrément les millénaires. Son administration, c'est-à-dire la façon dont elle est pratiquée concrètement, elle évolue avec le temps, mais son essence fondamentale, elle, reste intacte.
Ok.
On était sur le rituel de ratification, le moment où l'accord initial est scellé.
Et justement, la conférence décrit cette ratification d'une manière qui marque vraiment les esprits. C'est dans le chapitre 15 de la Genèse. Le texte dépeint une scène nocturne, enveloppée d'épaisses ténèbres.
Ouais, une ambiance très lourde.
Très lourde, ouais. On y trouve des animaux sacrifiés, coupés en deux moitiés, distinctes, et disposés face à face sur le sol. Et là, au beau milieu de cette allée de chair et de sang, le récit décrit une fumasse fumante et une torche enflammée qui passe lentement entre les morceaux.
C'est une imagerie d'une puissance brute, hein ?
C'est clair. C'est super éloigné de nos conceptions modernes et un peu lisse du divin, quoi. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le plan symbolique ici ?
Ce qui est fascinant ici, c'est l'inversion des rôles. L'érudit Meredith Klein, que le docteur Vanoy cite beaucoup en s'appuyant sur son livre « By Oath Consigned », il utilise une expression vraiment frappante pour décrire cette scène.
Ah oui, laquelle ?
Il l'appelle « le Golgotha de l'Ancien Testament ».
Waouh ! Le Golgotha, rien que ça !
Ouais. Pour comprendre ce qui se joue, en fait, il faut analyser la mécanique des traités de cette époque. Normalement, dans le Proche-Orient ancien, c'était le vassal, donc l'être inférieur qui marchait entre les animaux découpés.
D'accord, pour jurer allégeance, en gros.
Voilà. En faisant ça, il jurait de subir le même sort s'il trahissait le roi supérieur. Mais ici, le truc de dingue, c'est que c'est totalement inversé. La funeresse fumante, ça représente la théophanie, donc la présence même de Dieu, et c'est le seigneur de l'Alliance qui passe entre les morceaux.
Attends, c'est un détail qui change absolument tout, ça. Si je comprends bien, c'est une forme d'auto-malédiction.
Mais exactement. L'analyse de Klein explique que Dieu prend symboliquement sur lui-même la malédiction de l'Alliance. C'est un engagement divin unilatéral d'une intensité inouïe, quoi.
Donc c'est lui qui prend le risque ?
C'est ça. En traversant ce couloir macabre, le Créateur déclare en substance « Que je sois moi-même démembré et détruit si je manque à ma promesse d'apporter la bénédiction à mon serviteur. » Le souverain absolu se place sous la menace de sa propre justice.
C'est dingue.
Et c'est pour cette raison que Klein y voit carrément l'anticipation du mystère de la croix, l'idée d'un Dieu qui prend sur lui la destruction.
Ouais, pour essayer de ramener ça à une réalité plus familière pour nous aujourd'hui, c'est un peu comme si... au moment de signer un prêt immobilier colossal à la banque, la dynamique s'inversait totalement.
Comme ça est fait.
Au lieu que la banque exige de saisir tes biens si tu fais faillite, c'est le directeur de la banque, lui-même, qui rédige une clause disant qu'il met sa propre vie et toute sa fortune personnelle en jeu si, pour une raison quelconque, le client ne parvient pas à rembourser.
Ah ouais, vu comme ça, c'est parlant.
C'est une inversion vertigineuse de la structure de pouvoir habituelle, en fait.
L'analogie est super bonne. Dans ce cas-là, l'entité qui détient tout le pouvoir et la richesse absorbe volontairement le risque total de l'opération.
C'est ça.
Et il faut bien souligner que ce risque n'était pas pris pour une promesse juste, abstraite ou spirituelle en l'air. La conférence de Vannoy insiste beaucoup sur le fait que cette alliance est extrêmement concrète. Elle comporte une dimension territoriale massive.
Ah oui, les terres.
Oui, les frontières sont explicitement nommées dans le texte. Du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. C'est un territoire immense, dont les limites seront d'ailleurs répétées mot pour mot plus tard par Moïse, puis par Josué.
Pourtant, en lisant la transcription, il y a un fait historique qui saute aux yeux quand on connaît un peu la suite. La conquête de ce territoire n'a pas du tout été immédiate ni même complète dans un premier temps. La source indique clairement que sous Josué, la promesse territoriale n'était que très partiellement accomplie, non ?
Tout à fait. C'est même un aspect fondamental de l'histoire biblique que le docteur Vannoy met en exergue. Si on regarde le livre des juges, on constate que pas mal de tribus d'Israël, comme Benjamin, Manassé ou Éphraïm, n'ont absolument pas réussi à déloger les populations locales de leur territoire.
Donc, ça a pris du temps.
Oui, l'accomplissement n'est pas immédiat. L'analyse historique de Vannoy montre qu'il faut vraiment attendre l'émergence de la monarchie, spécifiquement sous les règnes de David et de Salomon, pour assister à une réalisation concrète.
Une réalisation provisoire, du coup.
Voilà. Provisoire, mais réel géographiquement. Les textes de 2 Samuel et 1 Roi précisent que David a établi des garnisons jusqu'à l'Euphrate et que Salomon exerçait sa domination de Tipsa sur l'Euphrate jusqu'à Gaza.
Donc on a une réalisation politique et géographique.
Mais ce qui rend cette alliance véritablement impressionnante, je trouve, c'est sa dimension temporelle. La conférence fait une connexion fascinante avec un passage beaucoup plus tardif, dans le livre de Jérémie, au chapitre 31.
Ah, ce passage est magnifique, oui.
Ouais, il y a cette idée que l'existence d'Israël n'est pas garantie par de simples traités politiques humains, mais qu'elle est carrément indexée sur l'univers lui-même. En gros, tant que le soleil brillera le jour et que la lune éclairera la nuit, l'alliance tiendra. C'est fou.
C'est un point théologique majeur. La promesse est arrimée aux ordonnances mêmes de la création. Le docteur Vannoy explique bien que ça sort le contrat abrahamique du simple cadre des contingences historiques.
Ça lui donne une ampleur cosmique, quoi.
Exactement. La pérennité de la nation est garantie par la régularité du cosmos. Tant que la mécanique céleste mise en place dans la Genèse fonctionne, la parole donnée reste inviolable.
D'accord, donc on a ce cadre hyper majestueux. Dans le chapitre 15 de la Genèse, on a un dieu qui absorbe la totalité du risque cosmique et territorial. Mais ça soulève une contradiction apparente, ou du moins un vrai mystère, quand on passe au chapitre 17.
Le renouvellement de l'Alliance.
C'est ça. Si la divinité a pris toute la malédiction sur elle-même, pourquoi exiger soudainement des humains des signes d'obéissance physique extrêmement stricts ? Le chapitre 17 introduit un changement de nom. Abraham devient Abraham, mais surtout, il exige une perfection et un rituel de mutilation physique. Comment ces deux trucs s'articulent ?
C'est là toute la subtilité de la théologie de l'Alliance expliquée par Vannoy, en fait. L'engagement unilatéral de Dieu n'annule pas du tout la nécessité d'une réponse humaine. Au contraire, il en est le fondement.
Ok, explique-moi ça.
Déjà, le changement de nom est lourd de sens. Sur le plan linguistique, Abraham, ça signifie fort probablement « le Père est exalté » ou « Dieu est exalté ». En devenant Abraham, avec l'ajout de la racine Raham, le nom signifie « père d'une multitude ».
Ça ancre la promesse directe dans son identité.
Tout à fait. Et ensuite, quand Dieu lui demande de marcher devant lui et d'être parfait, la conférence précise très clairement qu'il ne s'agit pas du tout d'une perfection morale sans péché.
Oui, ce serait impossible de toute façon.
Exactement, c'est impossible pour un être humain.
Mais alors, ça veut dire quoi ce terme de parfait dans ce contexte précis ?
C'est l'exigence de mener une vie saine, obéissante, une marche continue dans la foi, quoi. Et c'est précisément là qu'intervient le signe physique, la circoncision.
Et c'est justement sur ce point précis que la transcription soulève un truc super captivant. L'injonction est claire, d'accord, mais le choix du rituel semble complètement contre-intuitif.
Ah oui, par rapport aux autres peuples.
Voilà. La source mentionne le prophète Jérémie, au chapitre 9, qui indique que la circoncision, c'était pas une nouveauté exclusive. Les Égyptiens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites, ils la pratiquaient déjà. Pourquoi choisir une coutume régionale aussi répandue pour sceller une alliance censée être unique et sainte ?
Ça soulève une question importante, c'est vrai. Et la réponse du docteur Vanhoué révèle en fait toute la pédagogie divine. C'est très fréquent dans l'histoire biblique de voir Dieu s'approprier un élément existant de la culture environnante pour lui insuffler une signification théologique entièrement nouvelle.
D'accord, un genre de recyclage culturel avec un nouveau sens.
C'est un peu ça. Dans ce contexte spécifique, l'acte de retirer la chair, ça symbolise le retrait de l'impureté. La théologie sous-jacente perçoit le péché et la corruption comme des éléments qui sont transmis par la génération physique.
Donc, ce rituel physique, ce serait une métaphore d'un besoin spirituel beaucoup plus profond.
Précisément. Le message, c'est que la simple descendance biologique d'Abraham, ça suffit pas pour faire d'un individu un membre véritable du peuple de Dieu. La circoncision de la chair n'a de valeur que parce qu'elle pointe vers une réalité intérieure.
Ce que les textes appellent plus tard la circoncision du cœur, c'est ça?
Exactement. Le retrait de l'impureté spirituelle.
Mais ce qui frappe quand on lit la source, c'est la sévérité, franchement impitoyable, attachée à ce signe. C'était pas juste une belle métaphore laissée à l'appréciation de chacun. Le texte dit que toute âme masculine non circoncise devait être retranchée de son peuple. Concrètement, comment les érudits interprètent cette notion de retranchement?
C'est un sujet de débat intense parmi les exégètes. Le mot hébreu utilisé porte une charge d'une extrême gravité. Pour certains, ça signifie l'excommunication totale.
Donc on te met à la porte de la société?
Voilà. L'individu est banni, privé de la protection sociale, spirituelle et juridique de l'Alliance. Une vraie mort sociale. Mais pour d'autres érudits, en s'appuyant sur des textes parallèles concernant les violations graves comme le sabbat, le terme implique purement et simplement la peine de mort.
Oui, on rigole pas.
Non. Quoi qu'il en soit, rater cette exigence, c'était pas perçu comme une simple petite négligence rituelle. Hein. C'était vu comme un rejet délibéré du Dieu de l'Alliance lui-même.
Il y a d'ailleurs un épisode de la conférence qui illustre cette gravité d'une façon presque terrifiante. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, Moïse, l'homme choisi pour libérer tout un peuple, est en route.
Oui, l'incident avec Séphora.
Ouais. Soudainement, le texte dit que Dieu vient à sa rencontre et cherche à le faire mourir. En lisant ça, l'incompréhension est totale. Et la raison invoquée, c'est que Moïse avait omis de circoncire son fils. Il a fallu que sa femme, Séphora, prenne un silex tranchant dans l'urgence absolue pour accomplir le rite.
Pour détourner la colère divine.
C'est ça. Ça montre bien que personne n'est au-dessus de la stipulation du signe de l'Alliance, pas même le plus grand des prophètes, quoi.
Cet incident brutal y confirme vraiment que le signe est le sceau d'appartenance indispensable. Mais attention, la conférence prend soin d'ajouter une grosse nuance théologique ici.
Laquelle ?
Elle s'appuie sur l'analyse de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Il est hyper important de respecter la chronologie de la vie d'Abraham. Abraham a eu la foi, et cette foi lui a été comptée comme justice bien avant l'institution de la circoncision.
Ah, donc l'ordre des événements compte ?
Énormément. Le rituel physique n'est jamais la cause du salut. Il intervient a posteriori. Comme une confirmation visible d'une réalité spirituelle invisible qui est déjà là.
Ce qui amène forcément à la question de la continuité de ce principe à travers les siècles.
Absolument. Le docteur Vanhoué explique que dans cette optique théologique, il y a une continuité fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est l'administration qui change, pas la substance de l'Alliance.
D'accord.
C'est pour ça que dans cette tradition, le baptême est compris comme le successeur direct de la circoncision. Le signe s'élargit, il dépasse les barrières ethniques, mais la structure de l'Alliance perdure.
Ce parcours est saisissant. On part d'une promesse territoriale où Dieu s'engage sur sa propre existence, puis on passe à l'exigence d'une marque corporelle stricte. Abraham accepte tout. Et le temps passe, et il reçoit enfin Isaac, le fils de la promesse, attendu pendant 24 ans.
Un miracle en soi.
Totalement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est à ce moment précis de triomphe que surgit Genèse 22. L'épreuve suprême, la ligature d'Isaac. C'est vraiment le moment de la conférence où la tension psychologique atteint son paroxysme absolu. Dieu ordonne à Abraham de sacrifier ce fils.
On est face au point de rupture psychologique de la foi, là. C'est pas seulement un test affectif affreux, c'est une contradiction théologique apparente. On demande à Abraham de détruire de ses propres mains le seul moyen par lequel la promesse divine pouvait s'accomplir.
Pour vraiment ressentir le vertige de la situation, c'est imaginons quelqu'un qui attend de gagner à la loterie pour sauver sa famille de la ruine. Après 24 ans d'attente, l'organisateur lui remet enfin le billet gagnant.
La délivrance, enfin.
Sauf qu'au moment de l'encaisser, cet organisateur exige qu'il brûle le billet gagnant, là, sous ses yeux. la cruauté du truc est insensée. Comment un esprit humain peut traiter un tel ordre sans sombrer dans la folie ?
C'est là que la conférence introduit l'analyse du réformateur Jean Calvin, qui a beaucoup réfléchi à la psychologie de cet événement. Ton analogie soulève exactement le paradoxe. L'ordre de destruction vient de la source même de la promesse.
C'est ça qui rend fou.
Calvin explique que l'esprit d'Abraham a dû être violemment tiraillé, écartelé entre deux ordres divins totalement incompatibles. D'un côté, prends ton fils et sacrifie-le, et de l'autre, c'est par Isaac que te naîtra une descendance.
Le conflit cognitif est juste total, quoi. Comment il peut faire un seul pas vers la montagne avec ça en tête ?
Selon Calvin et le docteur Vanine, Abraham résout cette équation impossible par l'espérance pure. Il arrive à la conclusion que la nature de Dieu ne peut pas être intrinsèquement contradictoire.
Même si tout semble prouver le contraire.
Voilà. Et la source s'appuie aussi sur Hébreux chapitre 11. Ce texte donne la clé. Abraham avançait avec la conviction irrationnelle mais absolue que Dieu était capable de ressusciter Isaac d'entre les morts pour tenir sa promesse.
Faut d'ailleurs noter une distinction cruciale que la source soulève dès le premier verset de Genèse 22. Le texte original dit que Dieu voulut éprouver Abraham. Et la traduction par le mot « tenter » serait une grave erreur, on est d'accord ?
Ah oui, c'est une erreur d'interprétation majeure. La conférence fait un parallèle avec le livre de Job et l'épître de Jacques pour bien clarifier ça. Satan tente. L'objectif de la tentation, c'est toujours la destruction. C'est pour faire chuter.
Pour éloigner de Dieu.
C'est ça. À l'inverse, Dieu éprouve. Les circonstances peuvent être d'une noirceur absolue, comme ici, mais la mécanique de l'épreuve divine, elle, a pour but de purifier, de fortifier la foi de celui qui la traverse. La finalité est opposée.
Et Abraham traverse cette épreuve, effectivement. Mais l'épisode se termine sur des mots divins qui posent ce que l'exploration décrit comme l'un des plus grands débats théologiques.
Le fameux « parce que ».
Exactement. Dieu intervient, arrête le couteau et dit « parce que tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre seront bénies ». Ce simple « parce que » il est explosif. Est-ce que ça veut dire qu'Abraham a mérité la bénédiction par son action ?
C'est une question épineuse.
C'est fascinant de voir comment la conférence expose de manière super impartiale les deux grandes écoles de pensée là-dessus.
Oui, l'analyse du docteur Vanoy présente bien les deux perspectives. La première, c'est celle de Meredith Klein. Pour lui, le mot « parce que » doit être pris dans son sens fort. Il soutient qu'il y a un véritable fondement méritoire ici.
Donc l'acte d'Abraham a causé la récompense.
Dans cette vue, oui. La foi et l'acte de soumission extrême sont impliqués de manière causale et méritoire dans l'accomplissement de la promesse.
Et face à cette idée de mérite, quelle est l'autre explication ?
L'autre grand pilier, adopté par Calvin et soutenu par Vanoy à la fin, rejette l'idée stricte de mérite. Pour eux, le Créateur ne contracte jamais aucune dette envers la créature.
Mais alors comment ils expliquent le « parce que » du texte ?
Calvin avance que Dieu, dans sa bonté, accorde à ses propres bienfaits le titre de récompense. C'est une sorte de mécanisme pédagogique pour encourager la piété.
Un peu comme on donne un bon point à un enfant pour le motiver, alors qu'en fait, on allait de toute façon lui donner ce qu'il a besoin.
Exactement. La grâce divine était déjà à l'œuvre dans le cœur d'Abraham pour lui donner la force d'obéir. Du coup, l'obéissance n'est pas la cause qui achète la promesse, elle est le moyen d'administration, le canal par lequel la promesse a choisi de se déployer.
Donc l'action humaine est un outil de déploiement et pas une monnaie d'échange pour acheter la faveur divine. C'est subtil, mais ça change toute la dynamique de la relation.
Et si on relie cela à une perspective plus large, ça nous amène directement face au grand mystère dont parle la source, la tension éternelle entre la souveraineté absolue de Dieu et la véritable responsabilité de l'action humaine.
Et la conférence prévient qu'il ne faut pas essayer de résoudre ça par une logique purement mathématique, hein.
Surtout pas. Forcer la résolution, ça détruit le sens. Vanoy utilise deux analogies brillantes pour l'expliquer. Prenez la double nature du Christ. Comment une seule entité peut-elle être 100% divine et 100% humaine ?
La logique bloque.
Voilà, la logique humaine est incapable de tracer la frontière. Prenez ensuite l'inspiration des Écritures. Les textes portent la marque des auteurs humains, avec leur vocabulaire et leurs limites, mais c'est pleinement considéré comme la parole de Dieu.
Encore un paradoxe ?
Dans ces trois cas, si on s'acharne à disséquer le mystère, on fait fausse route. Soit on annule l'action de Dieu pour exalter le libre arbitre, soit on transforme l'humain en marionnette. Il faut accepter de tenir les deux vérités en tension.
L'acceptation du mystère comme composante de la raison, c'est vertigineux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on résume, on est passé de l'obscurité terrifiante de Genèse 15, avec un Dieu qui prend le risque du démembrement sur lui-même, à l'exigence d'un signe physique d'appartenance intime.
Tout un cheminement.
Et ça culmine sur le mont Moria, où la foi est acculée dans une impasse logique absolue, nous forçons à contempler cet équilibre impossible entre le décret d'en haut et l'obéissance d'en bas.
Ces récits dépassent largement son contexte antique. Il offre une vraie grille d'analyse intemporelle pour ceux qui écoutent. Chaque épreuve pose cette question : est-ce une force destructrice ou un creuset destiné à fortifier ce qu'il y a de plus profond en nous ?
C'est puissant.
L'attitude d'Abraham démontre que quand la réalité semble anéantir nos promesses, l'esprit humain a cette capacité stupéfiante de s'accrocher à l'espérance au-delà de toute logique.
C'est un constat qui laisse une empreinte durable. Et pour clore cette exploration, il y a une ultime réflexion inédite qui émerge quand on regarde le panorama global de la conférence.
Laquelle ?
Dans ces pages millénaires, on découvre une alliance qui oblige le divin à symboliser sa propre mort en cas d'échec, puis un test absolu exigeant d'un père d'offrir son fils unique. Bien avant l'ère chrétienne, on pourrait se demander dans quelle mesure cette narration extrêmement ancienne avait déjà secrètement codé et préfiguré toute la structure psychologique et spirituelle du concept de sacrifice suprême en Occident.
Une vraie invitation à poursuivre ses propres recherches.
Assurément. C'est la fin de notre analyse pour aujourd'hui.